Bonjour à tous et bonne année, meilleurs voeux. J'ai un bon défi aujourd'hui, merci beaucoup. Nous commençons avec chapitre 19 et 20, deux très grands chapitres de l'Exode, où Dieu est venu de voir les Israélites. J'espère donc vous êtes toujours à jour avec la lecture d'Exode, c'est ça? Et c'est en quel moment pour commencer cette nouvelle année? La gloire de Dieu évidente devant les Israélites. Les Israélites avaient été faits sortir d'Égypte. Environ, c'est à peu près 3 mois. Et avant d'arriver au mont Sinaï, c'est là que Dieu a décidé de se réveiller aux Israélites, conformément à la promesse faite dans Exode 3, verset 12. Voici le signe qui te prouvera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, va servir Dieu sur cette montagne. Les Israélites ont resté autour de le mont Sinaï pendant quelques mois, mais c'est à la début ils ont vu la gloire de Dieu qui vient devant eux. Et c'est le même endroit Moïse a vu il a rencontré cette buisson ardent. C'est le même endroit, c'est la même montagne. Dans le texte, dans les commentaires, des fois ils utilisent les noms différents. C'est pas totalement sûr, mais c'est à peu près la même montagne. Mais ce qui se passe ici a une importance particulière pour nous aujourd'hui, notamment dans la façon dont nous percevons Dieu dans nos vies. Ce chapitre soulève plusieurs questions clés. Donc, le premier, pourquoi Dieu s'est-il réveillé dans une telle gloire? Et est-ce que cela signifie pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui? J'ai le premier morceau. Je ne vais pas lire tout parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce n'était pas la première fois que Moïse parle directement à Dieu. Et ce qu'il y avait à dire était très important. Tout d'abord, il assimila aux descendants de Jacob et non à ceux d'Abraham ou d'Isaac. C'est important. Il fit cela parce qu'il associait au plus petit, au moins important des trois, en raison de leur attitude et de leur comportement. Il n'a pas dit des peuples d'Abraham. Abraham était un homme de grande foi. Il était marqué dans la Bible. Mais à ce moment, Dieu a dit non, les peuples de Jacob. Pour placer les gens dans la bonne place de leur comportement, pour expliquer ça. Et ça, c'est malgré toutes les manifestations continuelles de l'amour et de la gloire pour le peuple d'Israël, il a donné. Tout ce qu'il pouvait faire était de se plaindre. Ils ont plaindre beaucoup de toutes les choses. Mais Dieu a manifesté beaucoup de gloire. Il a manifesté sa puissance jusqu'à ce moment. met les gens à juste plaindre des choses. Il leur a rappelé qu'il avait fait pour eux en les faisant sortir d'Égypte. Il a utilisé l'énergie des ailes d'aigle, faisant référence à la façon dont un aigle transporte ses petits. Il ne les tient pas par les pattes, mais il se grippe à son dos pour protéger leur des chasseurs des autres animaux. Et c'est Dieu a fait ça pour les peuples d'Israël. On passe à verset 5. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Wow! C'est ici Dieu réveille son plan et sa destinée pour les Israélites, pour son peuple, son cœur pour eux. Dieu parle ici de son alliance qui était un accord entre Dieu et Israël. Un accord selon lequel soit il obéirait à Dieu, à ses lois et à ses sacrifices, et sera béni par lui, soit il désobéit et seront maudits. Dieu voulait établir une alliance avec le peuple d'Israël avant de lui donner la loi, car l'alliance est plus importante que la loi. Pour Dieu, il veut une alliance avec les Israélites. Et cette alliance crée cette relation avec eux. Ce n'est pas la loi qui le crée, c'est l'alliance. On souvent confondre l'alliance avec la loi. Ce n'est pas la même chose. La loi est une partie de l'alliance. Et Dieu a donné son alliance avec le peuple pour une raison. Et en conclut cette alliance avec lui, ils deviendront un trésor particulier, occupant une place unique dans la plainte de Dieu, un peuple de grande valeur pour Dieu. Dieu était déterminé à utiliser Israël pour atteindre le reste de la terre. En tant que royaume de prêtres, le royaume d'Israël agirait comme médiateur de la grâce de Dieu auprès des nations de la terre. 1 Pierre 2, verset 9, nous rappelle que nous sommes la même. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. En tant que peuple de Dieu, nous devons nous distinguer du reste du monde et agir différemment du corps normal des choses dans ce monde à cause de cette alliance. Verset 7. Moïse revient au camp, convoque les anciens d'Israël et le communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Toutes Le peuple, unanime, s'écria : Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. Moïse, rapportera leur réponse au Seigneur. Ici, les peuples répondent et acceptent l'alliance de Dieu. Souvenez-vous, quand nous le reverrons au chapitre 24. Moïse rapportera leur réponse à Dieu en tant que véritable prêtre, agissant comme médiateur entre le peuple et Dieu. C'est là important, car cela prépare la scène pour la suite. Verset 9. Alors, le Seigneur lui déclara : Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse fumée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse : Retourne vers les peuples et dis-le de se purifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Et après, il parle de les limites autour de la montagne pour les gens, pour le garder. Et il dit : On ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand le corps sonnera que certains pourront monter sur la montagne. Il a dit : Cette montagne est sacrée. Je suis là, c'est sacré. Et personne ne peut me d'entrer, de placer un pied sur cette montagne. Pour le peuple puisse se présenter devant Dieu, il devait se préparer, se consacrer correctement. Et Dieu a fixé ses limites. Cela semble un peu assez étrange après avoir conclu une alliance avec eux. On pense qu'avec cette alliance, il a le droit d'entrer proche de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Il est important de noter ici que Dieu exige avant tout l'obéissance du peuple d'Israël. En tant qu'êtres humains, nous avons également besoin des limites dans nos vies. Et nous devons leur obéir. On soumet nos sentiments à l'obéissance. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient autour de la montagne qui pensaient : Je veux voir Dieu. Je veux voir parce que c'est incroyable. Quelle opportunité. Mais Dieu dit non. Je place les limites ici. Tu peux voir ma gloire, mais tu ne peux pas entrer. Je veux que tu m'obéis. Le dernier point que Dieu souligne ici est qu'il devait attendre d'être appelé. Il devait attendre l'invitation de Dieu avant de se présenter devant lui. Il est intéressant de noter ici qu'il a duré 3 jours. Ils ont 3 jours pour préparer et après Dieu les appelle de venir. Et on voit verset 16, le surlendemain, dès l'aube, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Moïse le fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Il s'arrête au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élève comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Le sonnerie de trompette divine de plus en plus puissant. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Quelle expérience! Waouh! Une expérience extraordinaire de voir la terre et la nature exprimer la gloire de Dieu de cette manière. Cela a dû être un moment décisif de voir une telle gloire qui signifiait la présence de Dieu. Le son de la trompette venait du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui prend une trompette et souffle. Non. Il venait du ciel. Et cela a dû être assez terrifiant également. Cela a dû être une son incroyable. Et il s'arrête lorsque Moïse a parlé et que Dieu a répondu dans le tonnerre. Et tous les Israélites l'ont entendu. Ce n'est pas que Moïse, c'est tous les Israélites. C'était audible, tangible et réel. Waouh! Verset 20. Le Seigneur descendit au sommet de Sinaï, d'où il appelait Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit, « Va, avertis le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres qui peuvent s'approcher de moi doivent se purifier de peur que je n'intervienne contre eux. » C'est important de noter ça. Il a répété les limites. Et qu'est-ce que Moïse dit? Le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir le peuple à distance. Mais tu as déjà dit, on ne veut pas de faire. Mais le Seigneur ordonna à Moïse, retourne au camp, puisse te remontrer avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peu que je n'intervienne contre eux. Moïse redescendit donc vers les peuples. Et leur parla. Troisième fois, il a dit, cet endroit est consacré à moi. Personne n'a le droit. Mais pourquoi Pourquoi il a répété? Parce que Dieu comprenait la nature de l'homme. Toute cette expérience était une question d'exclusion. Je m'explique. Vous pouvez jamais imaginer qu'avec le tonnerre, les éclairs, la terre qui tremblait et toute cette fumée, le peuple était impressionné par Dieu. C'est incroyable de voir quelque chose comme ça. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit impressionné. Il recherchait la soumission. Et ce n'est pas parce qu'il était impressionné qu'il était posé à mener une vie sainte. D'être impressionné est vraiment différent de soumission. On peut dire « Waouh !» Mais ça, c'est rien si on ne soumet pas. Et bien au contraire, comme nous le voyons dans quelques semaines plus tard, c'est à peu près 40 jours plus tard, lorsqu'ils adorent un vœu d'or. Dieu le savait. Il a dit, je veux du sommet vers moi. Obéis-moi. Je ne suis pas intéressé par être impressionné, mais donnez-moi ton cœur. Et nous arrivons maintenant à chapitre 20. C'est là que Dieu donne les lois, les commandements au peuple d'Israël. Chapitre 20, verset 1. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Il ne dit pas, il donne les paroles à Moïse et Moïse donne à Israël, il donne à la peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle à Israël. Et les gens d'Israël ont entendu Dieu. Dieu parle afin que les Israélites puissent l'entendre, qu'ils puissent entendre ses paroles. Il n'y avait personne entre eux, aucun prêtre, ni aucune autre personne pour transmettre la parole de Dieu. Elle fut transmise dans un langage simple, afin que même les Israélites les plus ordinaires puissent comprendre les lois. En lisant ces lois, nous devons nous rappeler que les Israélites l'ont entendu de leur propre oreille, directement de la bouche de Dieu. Cela a dû faire une forte impression sur le cœur et l'esprit des Israélites. Et on va voir. Il est aussi important de noter à ce stade que ces lois n'ont pas été inventées ici au Mont Sinaï. Mais qu'il s'agit des mêmes lois qui ont été inscrites dans le cœur d'Adam. En Genèse, le premier livre de la Bible, c'est les mêmes lois. Ces lois sont la nature morale de Dieu. Faute d'un meilleur terme pour l'exprimer. En acceptant ces lois, les lois que Dieu leur a données, les Israélites seraient identifiables comme appartiennent à Dieu. Non pas à Moïse, mais à Dieu, parce que c'est Dieu qui a le donné. C'est pas Moïse qui a expliqué. Car aucun homme ne peut être au-dessus de la loi. La loi était donnée directement de Dieu. Aucun humain peut être au-dessus de la loi, au meilleur que le roi. Cela nous rappelle également que nous avons besoin de Dieu pour nous instruire et nous guider moralement, car nous sommes entourés de nombreuses choses qui nous influencent et tentent de nous détourner de notre chemin. Par conséquent, Dieu attend de nous un certain comportement moral. Et nous devons savoir qu'il y a des conséquences à ne pas se comporter dans la bonne manière. Et les 10 commandements sont exactement cela. Ce que Dieu nous commande, ce n'est pas une suggestion, mais un ordre. Grâce à cela, Dieu voit notre obéissance. Il est capable de la mesurer et peut nous récompenser dans une certaine manière. Mais l'inverse est également vrai. Il est capable de voir notre désobéissance, de la mesurer et de nous punir en conséquence. Mais c'est le cœur de Dieu qui a donné la loi. Et ça vient d'un problème, parce que nous, les hommes, quand on voit les lois, des fois, on vu les lois comme une suggestion. Les limites de vitesse sur la route, c'est 80. Et des fois, on est un peu en retard. C'est juste une suggestion. C'est ça? Non. Les lois sont un ordre. Et la raison derrière les lois, il y a une cœur. Et comme la vitesse est fixée à 80, c'est à cause de la situation dans la route, le type de route, etc. S'il est pensé d'être sécure de voyager à cette vitesse. C'est la même avec les commandements. Dieu a donné les commandements avec son cœur. Et le problème, on voit les commandements des autres dans la mauvaise façon. Fais pas, parce que tu vas mourir. Mais ce n'est pas ça comme Dieu a fait. Il a dit, fais pas, obéis-moi, parce que c'est bon pour toi. Un peu de différence entre les deux. Il y a conséquence de désobéissance. Oui. Mais on a besoin d'obéir Dieu. Est-ce qu'on peut passer la prochaine? Voici les 10 commandements. Je n'ai pas de temps aujourd'hui de faire les commandements et ce n'est pas le but de la prêche aujourd'hui parce qu'on parle sur la gloire de Dieu. Et on peut faire un message pour chacun de les 10. Mais les lois englobent la gloire de Dieu. Et je vais expliquer bientôt. On passe à verset 18. ici, on voit la réaction des Israélites. Ils ont dit oui à cette relation avec Dieu, et après Dieu a venu avec les lois, dans cette façon, avec le tonnerre, la terre qui tremble, etc. Et les peuples d'Israël dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu nous ne parle pas directement, sinon nous mourrons. Moïse leur répondit, ne craignez rien, si Dieu s'approche de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Les Israélites restent donc à distance, tandis que Moïse s'approche de l'épargne nuage où se tenait Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont été impressionnés par Dieu. Ils avaient peur et diront à Moïse qu'ils préféraient que lui ou quelqu'un d'autre se tienne en présence de Dieu et agisse comme leur médiateur plutôt que d'être à nouveau exposé à cela. Ils craignent davantage la mort que d'entendre la parole de Dieu. Quelle tristesse. Plus de peur sur la mort que d'entendre la voix de Dieu. Ils estiment qu'il valait mieux d'entendre Dieu par quelqu'un d'autre que d'être exposé directement à sa parole. Et ça commence à donner les Israélites une excuse. Mais c'est Moïse qui a dit, c'est pas Dieu, on n'a pas entendu les mots de Dieu, mais c'est toi. En conséquence, la loi leur fut imposée plus tard, tout au long de leur vie, et devient sévère. Ne reflète plus le cœur et l'intention de la parole de Dieu. On voit le changement entre le cœur de Dieu avec les commandements et l'enforcement des lois plutôt. Le peuple avait peur. Il y avait raison d'avoir peur. N'est-il pas préférable d'obéir par peur plutôt que de ne pas obéir de tout? Le texte l'explique bien. La première crainte est celle qui découle de la culpabilité et du danger. Mais la seconde, la crainte de Dieu renvoie à une attitude de révérence et d'honneur envers le Seigneur qui conduit à son tour au respect et à l'obéissance. En repensant à la vision de la gloire de Dieu devant le peuple d'Israël, nous voyons qu'elle avait pour but de montrer la sainteté et l'autorité de Dieu. Et ça, c'est le premier point que je veux souligner. Elle réveille sa majesté, mais en même temps, elle nous montrait la nécessité d'être humble devant lui, la nécessité de sa grâce et de nous orienter vers le Christ et le besoin de lui dans notre vie. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, voyons-nous réellement Dieu voyons-nous l'homme qui essaie d'être Dieu? On voit ça souvent en Europe. Les gens disent, je n'ai pas besoin de Dieu parce que nous avons créé cette société, cette culture. J'ai besoin de rien et c'est moi. C'est nous, les peuples, qui a créé. Qui est Dieu? L'homme pense qu'il est meilleur que Dieu. Alors que nous entamons cette nouvelle année, prenons du recul, humilions-nous devant Dieu et reconnaissons que nous avons vraiment besoin de sa grâce dans nos vies. Ayons à nouveau cette crainte du Seigneur dans nos vies et sachons qu'il est le Seigneur de tout. Point 2, la loi, les commandements. Magnifions la gloire de Dieu et augmente notre besoin de sa grâce. Les lois reflètent la volonté parfaite de Dieu, mais ce fait, il expose également notre nature pécheresse. Nous rendons vulnérables et nous faisons prendre conscience du besoin absolu de sa grâce dans nos vies. Nous devons nous rappeler que les commandements ne sont pas là pour que nous les accomplissions, mais plutôt pour nous servir de miroir dans lequel nous pouvons nous regarder et voir que nous avons vraiment besoin du Christ dans nos vies. En cette nouvelle année, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Regardons plutôt dans le miroir que Dieu a créé et reconnaissons où nous sommes, loin de sa gloire. Et demandons à Dieu davantage de sa grâce dans nos vies. Point 3. Le besoin d'un médiateur. En suppliant Moïse de devenir la porte-parole de Dieu, le peuple d'Israël a réveillé sa crainte de la gloire. Mais nous voulons voir sa gloire. Nous pouvons nous réjouir que le médiateur ultime soit venu vivre sur cette terre sous la forme d'un homme, Jésus-Christ. Grâce à son acte, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Christ. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et ainsi, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous tenons devant lui, Dieu nous voit à travers Christ. Et enfin, la gloire de Dieu exige une louange exclusive. La gloire de Dieu et sa fidélité à son alliance vont de pair. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, nous voyons sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cela est simple à réaliser. Rejeter toutes les idoles et tous les dieux dans nos vies et adorer Dieu seul, lui seul. Alors, vous verrez sa voix, vous verrez sa gloire. En résumé, le Sinaï a apporté la gloire de Dieu au peuple, mais celui-ci a trouvé la peur. Lorsque nous regardons le calvaire, la gloire de Dieu nous apporte sa grâce. Notre obéissance à Dieu vient de notre gratitude envers lui. Le fait de placer fermement notre espérance en Christ transforme cette peur en joie. Merci beaucoup et désolé pour le temps.
Amen.